Chapitre 3. La vie privée d'Alexis Daubrecq. En rentrant chez lui après son déjeuner, le lendemain de ce jour où la police avait exploré son domicile, le député Daubrecq fut arrêté par Clémence, sa concierge. Celle-ci avait réussi à trouver une cuisinière en qui l'on pouvait avoir toute confiance. Cette cuisinière, qui se présenta quelques minutes plus tard, exhiba des certificats de premier ordre, signés par des personnes auprès desquelles il était facile de prendre des informations. Très active, quoique d'un certain âge, elle acceptait de faire le ménage, à elle seule, sans l'aide d'aucun domestique, condition imposée par Daubrecq, qui préférait réduire les chances d'être espionnée. Comme en dernier lieu elle était placée chez un membre du Parlement, le comte Solva, Daubrecq téléphona aussitôt à son collègue. L'intendant du comte Solva donna sur elle les meilleurs renseignements. Elle fut engagée. Dès qu'elle eut apporté sa malle, elle se mit à l'ouvrage, nettoya toute la journée et prépara le repas. Daubrecq dîna et sortit. Vers 11 heures, la concierge étant couchée, elle entrebâilla avec précaution la grille du jardin. Un homme approcha.
C'est toi ?
Oui, c'est moi, Lupin.
Elle le conduisit dans la chambre qu'elle occupait au 3e étage, sur le jardin. Et tout de suite, elle se lamenta.
Encore des trucs, et toujours des trucs. Tu ne peux donc pas me laisser tranquille au lieu de m'employer à des tas de besognes.
Mais que veux-tu, ma bonne Victoire ? Quand il me faut une personne d'apparence respectable et de mœurs incorruptibles, c'est à toi que je pense. Tu dois être flatté.
Et c'est comme ça que tu t'émeus. Tu me jettes une fois de plus dans la gueule du loup et ça te fait rigoler.
Qu'est-ce que tu risques ?
Et comment ce que je risque ? Et tous mes certificats sont faux.
Les certificats sont toujours faux.
Et si M. Daubrecq s'en aperçoit, s'il se renseigne ?
Il s'est renseigné.
Hein ? Qu'est-ce que tu dis ?
Il a téléphoné à l'intendant du comte Solva, chez qui, soi-disant, tu as eu l'honneur de servir.
Mais tu vois, je suis fichu.
L'intendant du comte n'a pas tari d'éloge à ton propos.
Il ne me connaît pas.
Mais moi, je le connais. C'est moi qui l'ai fait placer chez le comte Solva. Alors, tu comprends.
Victoire parut un peu calmée.
Enfin, qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, ou plutôt, selon la tienne. Et quel est mon rôle dans tout cela ?
Me coucher ici, d'abord. Tu m'as jadis nourri de ton lait. Tu peux bien m'offrir la moitié de ta chambre. Je dormirai sur le fauteuil.
Et après ?
Après ? Me fournir les aliments nécessaires.
Et après ?
Après ? Entreprendre de concert avec moi et sous ma direction toute une série de recherches ayant pour but...
Ayant pour but ?
La découverte de l'objet précieux dont je t'ai parlé.
Quoi ?
Un bouchon de cristal.
Un bouchon de cristal ? Oh Jésus-Marie, quel métier ! Et si on ne le trouve pas, ton sacré bouchon ?
Lupin lui saisit doucement le bras, et d'une voix grave, « Si on ne le trouve pas, Gilbert, le petit Gilbert que tu connais et que tu aimes bien, a beaucoup de chance d'y laisser sa tête, ainsi que Vaucheray. »«
Vaucheray, ça m'est égal, une canaille comme lui. Oh, mais Gilbert !»«
Tu as lu les journaux ce soir ? L'affaire tourne de plus en plus mal. Vaucheray, comme de juste, accuse Gilbert d'avoir frappé le domestique. » Et il arrive précisément que le couteau dont Vaucheray s'est servi appartenait à Gilbert. La preuve en a été faite ce matin. Sur quoi Gilbert, qui est intelligent mais qui manque d'estomac, a bafouillé et s'est lancé dans des histoires et des mensonges qui achèveront de le perdre. Et voilà où nous en sommes. Veux-tu m'aider ?
À minuit, le député rentra. Dès lors, et durant plusieurs jours, Lupin modela sa vie sur celle de Daubrecq. Aussitôt que celui-ci quittait l'hôtel, Lupin commençait ses investigations. Il les poursuivit avec méthode, divisant chacune des pièces en secteurs, qu'il n'abandonnait qu'après avoir interrogé les plus petits recoins et, pour ainsi dire, épuisé toutes les combinaisons possibles. Victoire cherchait aussi. Et rien n'était oublié. Pieds de table, bâtons de chaise, lames de parquet, moulures, cadres de glace ou de tableau, pendules, socles de statuettes, ourlets de rideaux, appareils téléphoniques ou appareils d'électricité, on passait en revue tout ce qu'une imagination ingénieuse aurait pu choisir comme cachette. Et l'on surveillait aussi les moindres actes du député, ses gestes les plus inconscients, ses regards, les livres qu'il lisait, les lettres qu'il écrivait. C'était chose facile. Il semblait vivre au grand jour. Jamais une porte n'était fermée. Il ne recevait aucune visite, et son existence fonctionnait avec une régularité de mécanisme. L'après-midi, il allait à la chambre, le soir, au cercle. Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose qui n'est pas catholique dans tout cela.
Rien, je te dis, tu perds ton temps et nous nous ferons pincer.
La présence des agents de la sûreté et leurs allées et venues sous les fenêtres l'affolait. Elle ne pouvait admettre qu'ils fussent là pour une autre raison que pour la prendre au piège, elle, Victoire. Et chaque fois qu'elle se rendait au marché, elle était toute surprise qu'un de ces hommes ne lui mît pas la main sur l'épaule. Un jour, elle revint, bouleversée. Son panier de provisions tremblait à son bras.
« Eh bien, qu'y a-t-il, ma bonne Victoire? Tu es verte. »« Verte, n'est-ce pas ? Il y a de quoi ?»
Elle dut s'asseoir, et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à bégayer.
« Un individu qui m'a abordé chez la fruitière. »«
Oh, bigre, il voulait t'enlever ?»«
Non, il m'a remis une lettre. » »«
Et tu te plains ? Oh, une déclaration d'amour, évidemment. »«
Non, c'est pour votre patron qu'il a dit. »« Mon patron, que j'ai dit ? Oui, pour le monsieur qui habite votre chambre. »«
Hein ?» Cette fois, Lupin avait tressailli. « Donne-moi ça !» L'enveloppe ne portait aucune adresse. Mais il y en avait une autre à l'intérieur, sur laquelle il lut « Monsieur Arsène Lupin, aux bons soins de Victoire.
Oh, » Un fichtre. Celle-ci est raide.
Il déchira cette seconde enveloppe. Elle contenait une feuille de papier, avec ses mots écrits en grosses majuscules. Tout ce que vous faites est inutile et dangereux. Abandonnez la partie. Victoire poussa un gémissement et s'évanouit. Quant à Lupin, il se sentit rougir jusqu'aux oreilles, comme si on l'eût outragé de la façon la plus grossière. Il éprouvait cette humiliation d'un duelliste dont les intentions les plus secrètes seraient annoncées à haute voix par un adversaire ironique. D'ailleurs, il ne souffla mot. Victoire reprit son service. Lui, il resta dans sa chambre toute la journée à réfléchir. Le soir, il ne dormit pas. Et il ne cessait de se répéter « À quoi bon réfléchir ? Je me heurte à l'un de ces problèmes que l'on ne résout pas par la réflexion. Il est certain que je ne suis pas seul dans l'affaire et que, entre Daubrecq et la police, il y a, outre le troisième larron que je suis, un quatrième larron qui marche pour son compte et qui me connaît et qui lit clairement dans mon jeu. Mais quel est ce quatrième larron? Et puis, est-ce que je ne me trompe pas? Et puis, ah zut, dormons. » Mais il ne pouvait dormir et une partie de la nuit s'écoula de la sorte. Or, vers 4 heures du matin, il lui sembla entendre du bruit dans la maison. Il se leva précipitamment et du haut de l'escalier, il aperçut Daubrecq qui descendait le premier étage et se dirigeait ensuite vers le jardin. Une minute plus tard, le député, après avoir ouvert la grille, rentra avec un individu dont la tête était enfouie au fond d'un vaste col de fourrure et le conduisit dans son cabinet de travail. En prévision d'une éventualité de ce genre, Lupin avait pris ses précautions. Comme les fenêtres du cabinet et celles de sa chambre, situées derrière la maison, donnaient sur le jardin, il accrocha à son balcon une échelle de corde qu'il déroula doucement et le long de laquelle il descendit jusqu'au niveau supérieur des fenêtres du cabinet. Des volets masquaient ces fenêtres, mais comme elles étaient rondes, une imposte en demi-cercle restait libre, et Lupin, bien qu'il lui fût impossible d'entendre, put discerner tout ce qui se passait à l'intérieur.